La diététique chinoise, partie 1. Dans la grande et précieuse médecine traditionnelle chinoise se trouve un pan majeur consacré à la diététique ou l'art d'équilibrer les grands principes vitaux suivant une classification des aliments. À l'image du yin et du yang, la diététique chinoise cherche à maintenir l'équilibre ou à le rétablir lorsqu'il est rompu, déséquilibre causant un dysfonctionnement à l'origine de maladies, qu'elles soient physiques ou psychiques. La diététique chinoise, introduction et nature des aliments. Vieille de plusieurs millénaires, la diététique chinoise est une référence en matière d'alimentation préventive et holistique, sinon la référence. La santé et l'alimentation sont intimement liées, avec les saisons et les circonstances de chacun, un enfant, une personne déprimée, une femme enceinte, etc. L'individualisation alimentaire, chère à la naturopathie, rejoint ici le principe d'adapter son alimentation aux différents âges et circonstances de la vie, puisque les besoins peuvent être grandement variables en termes d'apport nutritionnel. Dans la diététique chinoise, les aliments sont classés par nature, fraîche ou froide, tiède ou chaude, neutre, par saveur, acide, amère, douce, piquante, salée, astringente, et associés aux méridiens, ces canaux qui permettent à l'énergie de circuler et de relier toutes les parties du corps entre elles. À condition d'être entiers, de saison et de qualité, les aliments, en tant que substances nutritionnelles, ont une action thérapeutique en prévenant l'apparition ou l'aggravation d'une maladie et en favorisant la guérison. Ils s'avèrent particulièrement efficaces pour les petits maux du quotidien, tels que les constipations ou diarrhées, la fatigue, l'acné ou encore le rhume. Inversement, consommer régulièrement une alimentation déséquilibrée, vide de nutriments, inadaptée, hors saison, ou ultra transformé, peut être la cause de nombreuses maladies. Gymnastique conceptuelle et culturelle. Médecine et diététique chinoise possèdent une terminologie bien spécifique et un système d'exploitation de l'homme et du monde très différent de celui que nous concevons en Occident. Comprendre le mode de pensée qui les sous-tend est requis. La base essentielle est celle du yin et du yang. Imaginons un feu de bois dans une cheminée. La bûche, le yin, sert de support matériel qui permet au feu, le yang, de brûler et d'assurer sa fonction, à savoir chauffer la pièce. Le bois, le yin, nourrit le feu, le yang, qui apporte la cendre, le yin. Ainsi, pour que la vie se manifeste, yin et yang doivent interagir, se transformer l'un en l'autre. Il ne s'agit donc pas d'une opposition entre les deux, mais d'une alternance ou complémentarité. Le yin représente la substance, la base matérielle, anatomique du corps humain, les os, les tissus, les organes, etc., ainsi que les substrats, qui construisent, nourrissent et humidifient le corps, le sang, les liquides organiques, et l'essence jing, sur laquelle nous allons revenir. Le yin, le support matériel, ce combustible, pour reprendre notre métaphore du feu de bois, permet à l'énergie de se manifester et ses fonctions de faire leur travail à travers le yang. Le yin est associé au temps froid et couvert, à l'intérieur et au féminin. Les symptômes de déficience du yin sont entre autres la constipation, la bouche sèche et des urines peu abondantes et foncées. Entre autres. Le yang correspond donc à l'énergie, à la chaleur, et il est à l'origine de toutes les fonctions et transformations du corps. Il le bâtit, l'active, l'entretient, le répare et le mobilise en cas de besoin. Le yang exprime l'ensoleillement, l'extérieur, la force et le masculin. Un yang insuffisant entraînera frilosité, diarrhée ou encore fatigue. La pensée chinoise, dominée par l'idée d'efficacité, l'une des influences taoïstes qui l'ont en grande partie forgée, joue entre les correspondances et les oppositions afin de parfaitement orchestrer cette incroyable machine qu'est le corps humain. Pour en terminer avec notre métaphore, nous avons donc le yin qui permet la production de yang, grâce auquel les aliments consommés subissent une transformation par le processus de digestion, et deviennent des matériaux constructeurs. La bûche devient cendre, qui devient substrat. La boucle est bouclée, ou, comme disait Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. L'essence jing, ou le capital santé. C'est la substance la plus essentielle du corps, et constitue la réserve d'énergie. Elle gouverne la croissance et le développement, participe à la production du sang et des tissus, nourrit le corps et l'esprit, le chêne. Les jeunes ont un jing abondant, permettant le plein d'énergie, un métabolisme performant, ainsi qu'une grande capacité à récupérer ou encore à cicatriser. Chacun de nous reçoit à la naissance une certaine quantité de jing innée, transmise par les parents lors de la conception et par la mère pendant la grossesse. Ce capital n'est pas renouvelable. Il assure une réserve précieuse dont il est recommandé de prendre soin. Une fois épuisé, c'est la mort. Pour le suppléer, nous avons la capacité d'assimiler une autre sorte de jing acquis. Nous allons le voir, l'essence des aliments et des boissons consommés est à l'origine de la production de qi non donné à l'énergie en médecine traditionnelle chinoise. Or, ce qui n'a pas été utilisé est réservé au jing acquis, venant renforcer le jing inné, ralentir l'épuisement et prolonger la vie. Qui prend soin de soi et ménage, et se ménage, ne gaspille pas son jing. Le qi, ou l'énergie vitale. Il est le souffle, le cri du nouveau-né, celui qui anime la matière du corps tout au long de l'existence, et le dernier, en fin de vie. Le qi, qui appartient au yang, est produit à partir de l'air respiré, sans masque, de l'exposition raisonnable au soleil et par les pieds, lorsqu'ils sont ancrés dans le sol, sans chaussures et à même la terre. Le qi est aussi obtenu à partir de l'énergie des aliments et boissons consommés. Ses fonctions dans l'organisme sont multiples, transformées, métabolisme, production diverse, mobilisées, permettant tous les mouvements physiologiques, réchauffées, apportant au corps la chaleur nécessaire, protégées, agissant comme un bouclier protecteur ou régulateur contre les agents pathogènes, le froid, la chaleur, l'humidité, etc. Retenir, en maintenant les liquides et les organes en place. Lorsque le qi d'un individu est insuffisant, celui-ci aura tendance à être fatigué, refroidi, sujet aux maladies ou aux vertiges. Lorsqu'il est stagnant, le qi s'accumule, provoquant des sensations douloureuses ou encore la stagnation du sang, xu, ou celle des lipides organiques, qu'on appelle jin ye, en médecine traditionnelle chinoise, et humeur en naturopathie. Nous n'exprimerons pas ici la question du sang et des liquides organiques, ni celle du shen, l'esprit, du point de vue de la médecine traditionnelle chinoise. Précisons seulement que tous sont liés et en interdépendance. En revanche, arrêtons-nous sur la physiologie digestive, xiao ou a. Xiao ou a, ou physiologie digestive. Xiao ou a signifie disperser et transformer. Les aliments et les liquides consommés se décomposent puis se transforment, par un processus de digestion, pour produire tout ce dont un être vivant a besoin. L'homme est doté de trois foyers, chacun abritant un feu spécifique permettant les différentes transformations vitales. Selon la médecine traditionnelle chinoise, la vie est d'ailleurs une succession de transformations chaudes. Le foyer supérieur, spécifique au cœur et aux poumons, le feu empereur qui donne et organise la vie, se situe au-dessus du diaphragme. Le second, le feu central, spécifique à la digestion, entre le diaphragme et le nombril. Le troisième, ou feu intérieur, les intestins, le foie, la vésicule biliaire, les reins, la vessie et les organes reproducteurs, feu ministre qui catalyse toutes les transformations et les fonctions du corps. En lien avec l'énergie sexuelle, en dessous du nombril. Le feu digestif transforme les aliments et les boissons pour produire le qi et le jing aki, le sang et les liquides organiques. L'image pourrait être celle d'un chaudron, l'estomac, dans lequel les aliments et les boissons sont d'abord fermentés, puis cuits, décomposés et transformés en bouillie alimentaire. Le mécanisme est bien plus subtil que décrit ici. Nous avons préféré opter pour une certaine simplification, tout en restant fidèles à la xiao ou a. Gardez en outre à l'esprit que les trois foyers interviennent dans le processus de transformation de tout ce que vous avalez en énergie et en sang. La rate et l'estomac, piliers de la digestion. Notons que la médecine traditionnelle chinoise invite à toujours être bien à l'écoute des premiers signes de satiété et s'assurer, à la fin du repas, de pouvoir glisser un doigt imaginaire entre son repas et son estomac. Dès lors, le processus de digestion peut démarrer dans de bonnes conditions. L'estomac, après avoir mixé et réduit en une chaude bouillie ce qui a été avalé, envoie ce chyme, devenu chyle, vers l'intestin grêle. C'est alors que sous l'impulsion de la rate, l'organe du feu digestif, avec l'énergie des reins, sépare le clair du trouble. Le clair correspond à l'énergie nutritive des aliments, qui sert de matériau de base à l'élaboration de l'énergie et du sang dans le corps. Il se diffuse alors vers le foyer supérieur. Le trouble, lui, représente toutes les substances inassimilables éliminées sous forme de déchets, par l'urine et les selles, et progresse par le feu intérieur. La rate et l'estomac sont donc en interaction pendant le processus de digestion. Si un dysfonctionnement survient, la digestion en sera troublée et les risques et des risques sur la santé, à court ou à long terme, plus ou moins sévères, sont à prévoir. Pour la médecine traditionnelle chinoise, plusieurs paramètres sont indispensables pour favoriser la digestion. La quantité, en ne remplissant pas complètement son estomac, nous l'avons vu, la mastication, qui réduit le travail de l'estomac, et un bon feu digestif. La chaleur est nécessaire à la transformation des aliments, et pour cela, le feu digestif doit être allumé et l'estomac chaud, environ 38 degrés. La diététique chinoise recommande donc de manger chaud et des aliments de nature chaude, suivant une classification que nous détaillerons sous peu, et surtout en fin de repas, pour favoriser la digestion. Voilà pourquoi il paraît aberrant, du point de vue de la médecine traditionnelle chinoise, de terminer son repas par une glace, entraînant ainsi une digestion lente et laborieuse, par refroidissement, donc perte d'énergie. La bouillie alimentaire est censée se consumer dans un four et non être stockée dans un congélateur. Le traditionnel trou normand, lui, fait sens en revanche. La nature chaude de l'alcool facilite la digestion. Avec modération. La saison est aussi à considérer. L'été, lorsque les températures externes sont plus élevées et impactent celles des corps, la consommation d'aliments de saveur fraîche ou froide et d'eau plus importante ne perturbe pas la digestion. Par exemple, les courgettes et les melons apporteront fraîcheur et humidité bienvenue en saison chaude, inadaptée en hiver, où, au contraire, le feu digestif doit être entretenu en mangeant et buvant chaud, afin de mieux résister. Au printemps, et avec lui une énergie nouvelle, il est indiqué de favoriser la saveur douce, qui tonifie l'énergie, et d'éviter la saveur piquante, qui la disperse. L'automne est associé à une dominance de sécheresse, aussi est-ce la saison pendant laquelle privilégier les aliments humidifiants. Le miel, les poires, les œufs ou encore les laitages en petite quantité.